Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Voilà, bienvenue et bonjour sur notre site Bible Espoir Saint-Nazaire, ou encore vous pouvez nous rejoindre sur la cale aux 1000 trésors. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une page de l'évangile de Jean et nous allons commenter en effet cette aventure, parce que c'en est une, qui nous apprend beaucoup de choses sur l'ambiguïté de la justice ou de la grâce. Alors je lis cette parole, donc c'est Jean, chapitre 8 et verset 3. Les interprètes de la loi et les pharisiens traînent devant lui une femme surprise en train de tromper son mari ou en flagrant délit d'adultère. Ils la font avancer dans la foule et la placent bien en vue au milieu du cercle devant Jésus. « Maître, lui disent-ils, cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi de Moïse nous a ordonné de tuer à coups de pierre, la lapidation, ces sortes de personnes-là. Quel est ton avis à toi là-dessus ?» Ils lui posèrent cette question piège dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Pour toute réponse, Jésus se baisse et se met à écrire par terre avec son doigt. Mais ils insistent et répètent plusieurs fois leur question. Alors, il se relève et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baisse à nouveau et continue à écrire par terre. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivent un à un, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui reste là immobile au milieu de la cour du temple. Alors, Jésus relève la tête et, se tournant vers elle, il lui demande « Eh bien, où sont passés tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné ?»« Personne, Seigneur, » lui répondit-elle. Alors Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus. Tu peux partir à l'avenir. Garde-toi de péché. » Alors nous avons là une bonne matière pour notre réflexion. Et Jésus fait face aux questions malicieuses de ses adversaires. Ceux-ci tentent de le compromettre par des affirmations malheureuses et le désavouer aux yeux de la foule. L'excitation des pharisiens devant le succès croissant de Jésus, qui nous est donné en exemple au chapitre 7, où il est question de la jalousie, et nous voyons que cette scène qui se déroule au temple est là de Jérusalem, et il y a un rassemblement qui se forme spontanément, alors Jésus va les enseigner. L'irruption des détracteurs de Jésus, quelques scribes et pharisiens heureux cette fois de n'avoir pas seulement que des questions douteuses à poser, mais avec une pièce à conviction. Ils traînent avec eux une malheureuse femme découverte en flagrant délit d'adultère. Cette fois, preuve en main, que va faire Jésus? Une petite remarque au passage, l'intention dévoilée, ce n'est pas tant l'affaire de la femme adultère qui les intéresse, mais plutôt de surprendre, je dis bien de surprendre Jésus, et de le compromettre par ses réponses sur cette question d'immoralité. Que va faire Jésus? Que va répondre Jésus? On pourrait presque soupçonner ces pharisiens haineux et hypocrites d'avoir monté toute cette conspiration. Ils dirent, et je reprends, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Et toi, que dis-tu ? » La lapidation était chez les Juifs la peine capitale sous forme de jet de pierre, châtiment infligé par le public. Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. En quoi consistait le piège tendu ? Si Jésus s'était prononcé pour l'application stricte De la loi, les pharisiens l'auraient accusé devant le peuple juif d'être un messie déchu, sans miséricorde, lui qui avait jusqu'alors toujours annoncé le royaume de Dieu, dans la grâce, par la grâce, exprimant la miséricorde du Dieu d'Israël et, en effet, en insistant sur le pardon pour les péchés. Ainsi, selon la réponse de Jésus, le dilemme était de l'enfermer soit dans un rigorisme désuet et lui faire perdre son crédit auprès du peuple, ou soit de l'accuser devant les autorités religieuses comme méprisant la loi des Juifs. La manœuvre était assurément subtile. Jésus, pour toute réponse, feint d'écrire sur la terre, ne voulant s'immiscer dans une affaire réservée aux tribunaux. Et comme il continuait, je reprends le texte, et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Cette parole extraordinaire, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » C'est toute la sagesse divine qui est manifestée à travers cette parole. La sagesse divine qui est là révélée. Jésus détourne la ruse de ses détracteurs et les met en face ou les met face à face avec leur propre conscience et leur propre péché, justifiant néanmoins la loi tout en donnant libre cours à la miséricorde sans pour autant excuser le péché commis. Jésus veut faire comprendre qu'il existe dans les cœurs des péchés pires que les plus grossières fautes telles que l'infidélité. L'infidélité a souvent été présentée comme le péché des péchés. L'adultère est coupable en ce qu'il brise les liens et rompt les engagements pris, avec toutes ses conséquences affectives, familiales, sociales. Il conduit à d'autres péchés, les mensonges, l'hypocrisie, la jalousie, la haine, la vengeance. Alors Jésus dira et ajoutera « Que celui qui est sans péché jette le premier, et bien là, la pierre, ou jette la première pierre. » C'est-à-dire que celui qui n'a rien à se reprocher, qui est pur de toute faute, fasse office de bourreau. À y réfléchir sérieusement, qui peut le faire? Le but de la parole de Jésus est de faire rentrer en soi, même en soi-même, tous ceux qui se constituent des accusateurs et les juges des autres. En se sondant, quelque peu, tout redresseur de tort trouvera suffisamment de raisons pour garder le silence et de s'humilier, d'éprouver pour les fautifs des sentiments de modération. Modération inconditionnelle. La Bible est assez explicite sur la question de la propre justice, c'est-à-dire se croire meilleur et au-dessus des autres. C'était bien le problème de cette caste religieuse qu'étaient les pharisiens. Nous avons un premier exemple dans Romains chapitre 2. C'est celui qui se fait juge sans savoir qu'il tient aussi la place d'accusé. C'est le type même de l'aveuglement moral. Tu juges et tu fais pareil, tu fais les mêmes choses, c'est une autre forme, donc tu te condamnes également. C'est la version de la paille et la poutre que nous connaissons bien. Le deuxième exemple nous est toujours donné dans Romains, et vous pourrez le relire, au chapitre 8, verset 17-23, c'est l'inconséquence. C'est le cas de l'homme éclairé, qui ne tire aucun profit pratique de son savoir. Il sait les choses, mais il ne les met pas en pratique, il ne les vit pas. Il sait, mais ne fait pas tout en jugeant autrui de faire ce qu'il ne faut pas. Mais le double péché des pharisiens, aggravé par leur jugement implacable et arbitraire. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conviction, leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. L'aveuglement et l'endurcissement reculent devant la vérité, et quelle vérité ? Vérité de notre vie propre, vérité de nos actions, de nos pensées, de ce qui est caché à l'intérieur de nous-mêmes, mais que nous ne voulons surtout pas montrer. La conscience, à ce moment-là, crie. L'examen des autres est toujours aisé, l'examen de soi-même, sous les projecteurs du Saint-Esprit, force à la réflexion forcément. Honteux, tout le monde disparaît dans cette cour du temple. Jésus reste seul avec la femme. Cette femme, dans sa honte publique, aurait pu s'enfuir, profitant de la confusion générale. Mais pourtant elle reste. Pourquoi reste-t-elle? Les paroles de Jésus ont dû sûrement produire en elle une impression d'humiliation profonde et un premier mouvement de repentance. Notoirement reconnue coupable, plus personne ne l'accuse. « Femme, où sont ceux qui t'accusent, ou ceux qui t'accusaient il y a un instant? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle vient d'échapper à un jugement impitoyable et à la mort, mais une autre angoisse grandit en elle, celle de sa conscience qui est profondément troublée. Ce trouble intérieur, effet de la grâce pénétrante qui fond les cœurs. Une autre remarque, c'est que la conscience réveillée par Jésus ou par sa parole est une autre forme de mort, mais celle-là salutaire. Elle découvre toute l'horreur du péché, produit un dégoût du mal et nous pousse à changer. C'est la tristesse de la repentance. Comme Paul l'écrira, il dira ceci, « Votre tristesse, en raison de votre culpabilité ressentie dans votre fort intérieur, alors votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristé selon Dieu, c'est-à-dire convaincu de péché. » La tristesse selon Dieu produit une véritable repentance à salut qu'on ne regrette jamais. C'est le cas de cette femme qui, dans cet instant, va ressentir le jugement qu'elle se donne à elle-même, mais également la grâce de Dieu qui va véritablement l'amener tout à nouveau en paix et à être affranchie de cette misère intérieure. On a plus à attendre de la grâce qui confond l'âme que le jugement qui endurcit, c'est-à-dire qui endurcit notre cœur. C'était en effet une méthode de Jésus. C'était les méthodes de Jésus. L'amour du pécheur et la haine du péché. Et c'est ça justement ce qui est puissant et ce qui est remarquable chez Dieu. Se sentir aimé et non rejeté, même dans nos fautes, nous pousse et nous inspire au changement, c'est-à-dire à la délivrance, le soupir de la délivrance. « Personne ne t'a-t-il condamné ?» dit Jésus. Elle va répondre tout simplement « Mais personne, Seigneur, ils sont tous partis, ils ont tous fui, finalement, à l'endroit. » Il y a là un respect produit, soit par la parole ou par la présence de Jésus, c'est-à-dire la sainteté de Jésus et de sa parole. Nous pourrions dire, et pour ajouter, pour conclure ce petit message, Jésus lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Cette belle histoire se résume par la mission même de Jésus. « Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Là où les hommes récusent et condamnent sans appel, Dieu absout. Quand ils trouvent des cœurs convaincus de péché et qui sont touchés par la grâce. Voilà l'effet du pardon quand on mérite d'être puni. C'est la chance que Dieu a donnée à cette femme, infidèle, mais le reste dépendait d'elle. Et Jésus va lui donner l'indication, le chemin à suivre, « Va maintenant, femme, et ne pêche plus. » Et il y a, en effet, pour terminer ce petit message, il y a en effet cette parole qui nous est donnée dans les évangiles, si nous disons, c'est une réflexion humaine bien sûr, mais qui véritablement, confirme ce que nous avons dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et il est juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il y a deux choses qui apparaissent, cette femme prise en flagrant délit de faute. Il y a Jésus qui lui apporte la grâce. Il y a le pardon, c'est l'oubli de la faute. Et il y a ensuite les conséquences, c'est ce que l'on peut appeler la purification ou la régénération de notre vie intérieure. C'est la délivrance du péché qui nous domine. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Et je voudrais m'adresser en toute simplicité à tous ceux qui sont là culpabilisés parce qu'ils commettent des fautes, nous commettons tous des fautes, et que nous avons du mal à supporter finalement ce sentiment à l'intérieur de cette accusation, parce que nous savons ce qui est bien, nous savons ce qui est mal, mais nous ne pouvons pas nous extraire du mal, et nous ne savons pas et nous ne connaissons pas la porte pour trouver le bien et la paix et le repos à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, je crois que tout cela, eh bien, ça s'adresse peut-être pour des amis, pour les uns les autres, qui sont tourmentés à l'intérieur d'eux-mêmes, qui sont peut-être même là, ravagés dans leur conscience, et qu'ils se disent « mais je voudrais vivre autrement, je voudrais être débarrassé de telle addiction, de telle chose, mais je ne peux pas m'en passer, c'est plus fort que moi ». Alors nous avons à travers cette belle histoire de la femme dont nous avons parlé il y a un instant, eh bien justement la solution, c'est que si nous nous approchons de Dieu, lui-même s'approchera de nous. Et de pouvoir lui dire en toute sincérité, de pouvoir lui dire en toute vérité, eh bien là, même si nous sommes accusés par un environnement impitoyable, cruel, méchant peut-être dans certains cas, eh bien nous savons que le Seigneur est capable de nous purifier de tout péché et de nous délivrer de toute iniquité. Faisons-lui confiance. Il est venu non pas pour perdre les hommes, il n'est pas venu pour les juger, pour les condamner, mais il est venu pour les sauver. Oui, nous avons dans cette parole eh bien, des paroles, des propos d'encouragement qui nous permettent de nous approcher de Dieu en toute sincérité et en toute confiance, parce qu'il ne nous rejette pas. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne sa grâce et de faire un bon usage de ce message. Et je voudrais simplement conclure là où vous pouvez nous retrouver, soit dans le site bibleespoir.saint-nazaire, dans le top message, top chrétien, au nom de l'auteur, donc Alain Ouvrard, prédicateur Alain Ouvrard. Trésor sonore également. Vous avez également toute une fenêtre pour vidéo. Il y a à peu près 130 messages vidéo là, ici, dans YouTube, avec une diversité également de d'autres, en effet, prédications, Facebook, Spotify également. Alors vous y trouverez des audios, des vidéos flash, l'écriture en majuscule qui retrace tout simplement eh bien, la vie des grands et fameux personnages de l'Ancien Testament, remarquables de l'Ancien Testament et également du Nouveau Testament, et également un supplément dans la vie de Jésus. Et puis, nous avons là, nous sommes en train de travailler pour faire eh bien, une série qui comportera une vingtaine de messages sur les moutons noirs de la Bible. Alors, tous les personnages qui se sont malheureusement distingués à travers leur méchanceté, à travers eh bien, toutes ces choses terribles qui sont bien, qui contredisent eh bien là, le message de l'Évangile, qui se sont opposés à Jésus, qui s'opposent encore aussi à l'Église, tels que Judas, tels que Pharaon, et puis bien d'autres également que vous trouverez dans votre, sur votre site Écriture en majuscule. Alors que Dieu vous bénisse, et à bientôt, et merci pour votre écoute.